Et merci, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Radio Shalom Bourgogne, le 97.1. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Chenal et Olivier Pelmoine. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en duo, un duo qui s'appelle Cordes et Âmes. Sarah Chenal, vous êtes professeure de violon et de musique de chambre au Conservatoire de Dijon.
Tout à fait.
Et puis Olivier Pelmoine, vous êtes vous guitariste, entre autres... au Conservatoire de Dijon, à l'École supérieure de musique. Alors, vous avez tous les deux un assez long parcours artistique. Peut-être que vous pouvez revenir rapidement dessus avant de parler de votre duo et de l'album qui nous amène ici.
Oui, oui, avec plaisir. Eh bien, bah, vu qu'on est là aujourd'hui pour parler de notre nouvel opus en duo, je vais peut-être vous dire que notre duo existe depuis plus de 25 ans.
2001, exactement.
Voilà, premier concert en 2001 et un des... tout premier concert, c'est à Vézelay.
Oui, à la basilique. Oui.
À la D'accord. basilique de Vézelay, donc on peut dire qu'il est né en Bourgogne.
D'accord.
Alors maintenant, nous y avons posé nos valises, mais c'est vrai que c'est une longue histoire avec, au début, l'exploration du répertoire moderne et contemporain, puis la musique espagnole, sud-américaine, et puis là, on vient avec un tout nouveau projet, voilà, dont on va vous parler... Donc Sarah va vous en dire plus.
Oh, avec plaisir. On va dire qu'on revient aux sources parce que Niccolo Paganini, le compositeur que nous avons enregistré, est le premier compositeur à avoir écrit pour notre formation violon-guitare.
D'accord.
Alors c'est vraiment le début. Et au bout de, comme tu dis Olivier, plus d'une vingtaine d'années, on a ressenti le besoin de d'interpréter ce répertoire et de le graver avec notre maturité.
C'est ça. Et puis Paganini, il est connu parce que c'était ce violoniste qui a écrit les Caprices, qui a révolutionné le violon. Et puis ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il jouait lui-même de la guitare, très bien d'ailleurs. Et que c'est aussi grâce à la guitare qu'il composait, qu'il arrangeait. Et donc l'idée, ça a été de jouer une des pièces maîtresses de ces duos. Violon et guitare, c'est la sonate concertante, où le violon et la guitare concertent.
Ouais.
Voilà. Et puis il y en a d'autres, alors on a fait un choix dans nos préférés, celles qui sont les plus emblématiques, et on a associé à l'italien Paganini un espagnol qui s'appelle Pablo de Sarasate.
Paganini espagnol.
C'est ça.
Quelques années plus tard, dans le même siècle, là, on est sur le 19e siècle, et Pablo de Sarasate était un violoniste incroyable, virtuose, et pour nous, c'était important d'aller dans cette continuité-là parce qu'il se trouve qu'ils ont joué tous les deux sur le même instrument, un Stradivarius, tant qu'à faire. Et ce Stradivarius est toujours au Musée de la Musique à Paris. Lorsque nous avons joué, c'était quand, l'année dernière, il y a un an à peu près. La programmatrice de notre concert, qui était donc la directrice du musée, nous a fait une belle visite de cet instrument.
Pour
la mémoire. Et il se trouve que cet instrument, malheureusement, n'est plus jouable. Mais un fac-similé vient juste d'être fait en 2023 par une luthière. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été faits. Mais celui-là a remporté le concours organisé par la Philharmonie de Paris. Et ils m'ont proposé gentiment de me le prêter pour faire notre enregistrement sur Paganini et sur Sarasate.
D'accord, formidable.
Voilà.
Ah, donc ça habite encore peut-être plus le personnage quelque part.
Exactement.
De transmission.
Oui, c'est sûr, le fait que Sarah ait pu avoir pendant plusieurs mois le fac-similé de ce Stradivarius donne une saveur particulière au projet. Et puis moi, du coup, je me suis dit, je ne vais pas jouer avec une guitare moderne. Alors j'ai sorti une guitare romantique, une guitare de l'époque de Paganini.
D'accord.
Et qui est l'ancêtre de la guitare moderne, très jolie, avec un très joli timbre. Alors elle est sans étiquette, on ne sait pas d'où elle vient. Je sais qu'elle a été faite certainement en Autriche autour de 1850, mais en tout cas c'était l'instrument idéal pour jouer la musique de Paganini, et puis ensuite la musique de Sarasate, qui a écrit pour orchestre, pour piano, mais pas du tout pour guitare. Eh bien j'ai fait les transcriptions des œuvres de Sarasate pour rester dans cette continuité.
Oui, on va dire que la guitare a quand même ce côté espagnol très profond.
Ah oui, ça c'est vrai, on l'assimile souvent à l'Espagne,
exactement.
Ça c'est sûr. Mais vous le disiez, ces deux personnages en fait se sont un peu croisés, je crois, quand l'un décédait, l'autre venait au monde, je crois,
oui,
quelques années après.
Mmh,
quelque chose.
Tout à fait.
Est-ce que peut-être l'un a été un peu inspiré, peut-être est-ce que c'est Pablo de Sarasate qui est un peu plus jeune,
oui,
c'est ça,
qui est venu après,
un peu plus jeune.
Après. Donc, oui, ouais. Ouais.
Puis ils ont un point commun aussi, Paganini est né à Gênes et il est parti à Nice, en France. Pour Sarasate, c'est Pamploune.
Oui.
Et il a fini sa vie à Biarritz. Donc ils avaient un lien fort tous les deux avec la France. Tous les deux ont énormément voyagé dans toute l'Europe. Paganini, on dit que c'est un peu la première rockstar du violon. Et c'est vrai qu'on sait qu'il voyageait de ville en ville en diligence à l'époque. Et que les voyages étaient très longs. C'était pas une heure et demie comme pour aller à Paris de nos jours. Et donc pendant tous ces longs trajets, il y a des écrits qui restent où il était avec son ami guitariste et puis il jouait dans de la musique dans la diligence. Et donc voilà, ça nous a aussi beaucoup inspiré. Mmh. Et puis je pense que Sarasate, c'est pareil, il a fait le tour des plus grandes villes européennes. Donc oui, il y a une continuité entre les deux, tout à fait.
Et donc ces deux compositeurs qui vous ont suivi tout au long de vos parcours de musicien.
Principalement pour... C'est des compositeurs violonistes,
ouais,
avant,
oui,
tout. Hein, donc
oui,
après, on a toujours joué du Paganini.
Oui, on a toujours joué les deux. Et puis là, on s'est dit, on va mettre les deux dans le même projet de disque. Voilà, c'était le bon moment.
Et comment est-ce qu'on... Ça m'intéresse. Et, je ne sais pas écrire de la musique, mais comment est-ce qu'on passe justement d'une partition qui est faite pour violon pour l'adapter à la guitare?
Ah, alors... Sarasate, il a écrit des pièces pour violon et piano.
Ah oui, d'accord.
Ou violon et orchestre, et de son vivant, des fois il réduisait l'orchestre au piano, qui est l'instrument le plus joué. Et bien ensuite, moi j'ai appris à lire une partition piano à la guitare, et puis essayer de garder les notes qui me paraissent être essentielles,
d'accord.
Puisque sur une petite guitare, on n'a pas l'étendue et l'ambitus d'un piano. Donc ça s'appelle de la transcription, et les guitaristes sont relativement habitués à le faire. Mais pour moi c'est intéressant, puis ça m'a permis de travailler directement sur la partition de piano, et c'est vrai que ça n'a rien à voir, parce que la guitare est sur une seule clé, on transpose à l'octave, donc ça a été un travail très intéressant, qui me sert beaucoup. Et puis pour Paganini, pour la petite histoire, la pièce qu'on va vous jouer en fin d'émission, le Cantabile, il se trouve qu'elle a été éditée depuis plus de 60 ans avec beaucoup beaucoup d'erreurs.
D'accord.
Et oui, il peut y avoir des fautes d'édition. Et en retrouvant le manuscrit, en le comparant à la première édition d'époque, on a pu enregistrer une version, on va dire, rectifiée de cette pièce qui, à la base, est écrite pour piano forte et guitare, et violon, pardon. Et là, on en propose une version violon et guitare avec les notes d'origine, on va dire.
D'accord.
Voilà.
Et cette guitare d'époque, est-ce qu'elle a une différence avec une guitare moderne? Est-ce qu'il y a au niveau du son, est-ce qu'il y a quelque chose qui change particulièrement?
Oui, le corps est plus petit, la projection est moindre, le timbre est plus doux, plus satiné.
Oui, moi je dirais plus chaleureux.
Ouais, plus chaleureux. Disons que les salles de concert de 300 places n'existaient pas vraiment à l'époque.
Oui, c'est vrai.
On est vraiment à l'époque de la musique de salon. Donc elle était idéale pour ça. Et puis elle a été restaurée. Alors elle aussi, elle a une histoire. Donc elle a été conçue en Allemagne ou en Autriche, on ne sait pas trop. Mais elle a été retrouvée dans un grenier du Morvan par un luthier qui a eu la très bonne idée de penser à moi, de restaurer l'instrument et de me la confier il y a quelques années.
Donc encore la Bourgogne.
Oui, voilà. Donc c'est pour ça que c'était important.
Et pour le violon, même si c'est un facsimilé, il y a aussi une différence de sonorité.
Oui, alors pour le coup, c'est un violon plus jeune, mais qui a conservé absolument normalement toutes les proportions de l'original. J'étais surprise par son timbre qui était déjà très chaleureux, alors qu'il pouvait être assez vert, hein, comme un instrument moderne. Et puis, surtout, une facilité de jeu étonnante pour la virtuosité dont j'ai besoin dans ce répertoire-là, pour des aigus, pour une fluidité. Tout sonnait très, très facilement. Donc, ça a été, pour moi, très agréable. Après, ce qui était aussi chouette par rapport à la guitare, c'est que je peux toujours... Mais ça, c'est le duo violon-guitare... dans le, on va dire dans le travail intrinsèque, qui est très agréable, c'est que je peux aller vraiment dans des nuances extrêmes. C'est le jeu de la guitare est très fin et ça me permet d'aller dans des colorations de timbres vraiment très diverses, notamment dans les nuances pianissimo, ce qu'on peut difficilement faire avec d'autres instruments. Et puis avec cette guitare-là, c'était d'autant plus intéressant, je trouve, dans ce répertoire et avec ces instruments. Mmh.
Les Parisiens, peut-être des Dijonnais qui se déplacent à Paris, ont la chance de voir justement la sortie de votre album. Je crois que c'est le 18 avril, le samedi 18 avril, oui. C'est ça, prochain. Alors justement, au musée de la musique.
Oui, à la Philharmonie de Paris.
En plus.
Oui, voilà, c'est le lien qui se refait avec le fameux violon.
Voilà, et puis ça correspond aussi à la sortie officielle du disque, qui sera disponible sur toutes les plateformes, puis dans les magasins. Tout ça, c'est le samedi 18 avril. Ensuite, on va faire voyager notre programme dans divers festivals. Et puis, on aura la chance et le plaisir de proposer un concert de sortie à Dijon, à l'hôtel de Vauguet, le 10 juillet. Voilà, avant d'aller se promener en Suisse et puis dans d'autres endroits de France pour présenter ce nouveau projet.
Pour réserver, j'imagine, des places, est-ce que c'est déjà complet? Vous avez une petite...
On n'a pas encore d'idée, mais on vous transmettra le lien. Ouais. Oui, c'est plus prudent de réserver.
Ouais, de réserver, ouais, à l'avance. Ouais. On mettra évidemment toutes les infos, mm-hmm, en descriptif du podcast, chères auditrices et chers auditeurs. Et pour commander le disque, c'est pour votre site internet, c'est ça?
Le mieux, c'est de passer directement par le label Scarbo.
Le label, d'accord.
Voilà.
Il sera très rapidement sur toutes les plateformes.
Okay. Oui. Et puis peut-être chez des disquaires, je ne sais pas s'il sera distribué à Dijon, probablement chez des disquaires.
Oui, oui.
La FNAC, tout ça.
Alors, avant de vous laisser nous jouer deux pièces, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement justement de Cantabile, de Paganini et de Miramar, de Sarasate?
Alors, Cantabile, comme son nom l'indique, c'est un chant. C'est un chant. Niccolò Pagani a finalement peu écrit de choses calmes parce qu'il était plutôt axé sur la virtuosité. Et donc, c'est une de ses rares pièces qui est vraiment chantée et peut-être l'une des plus connues jouées par... le violon et la guitare, et c'est une pièce courte, on appelle ça les pièces de genre, et c'est une pièce pour se faire plaisir.
Et puis Miramar de Pablo de Sarasate, c'est une pièce qui est née autour de 1900, donc à la fin, plutôt que Sarasate ait créé à la fin de sa vie, et elle est basée sur un rythme qui s'appelle le zortico, un rythme à 5 temps, typique de la région basque.
Et chères auditrices et chers auditeurs, je vous laisse donc en compagnie de Sarah Chenal et Olivier Pelmoine du duo Cordes et âmes. Ils nous interprètent donc deux compositions de Niccolò Paganini et de Pablo Sarasate. Vous aurez l'occasion de les retrouver à Dijon le 10 juillet prochain à l'hôtel de Vauguet. Excellente écoute sur le 97.1 Radio Shalom Bourgogne.